Comment ça va se passer concrètement? En fait, là, vous avez en gris regroupé toutes les autres zones urbaines dans lesquelles on peut, enfin, voilà, avoir des opérations qui soient un petit peu plus denses. En fait, il y a des règles spécifiques qui sont écrites pour ces zones urbaines. Quand elles sont au contact des zones pavillonnaires, elles vont devoir respecter le principe de la zone de courtoisie. Alors, vous avez un petit schéma qui explique ici comment ça se traduit quand on est dans la zone UB, donc qui est la zone de petits collectifs. Imaginez que là, vous avez la limite entre la zone pavillonnaire UC et la zone de petits collectifs UB. Donc, cette limite passe, on va dire, sur la clôture entre deux terrains, donc sur une limite latérale. Là, vous avez un pavillon. Et pour pouvoir donc construire des logements collectifs juste sur le terrain d'à côté en bordure de la zone UC, il faudra d'abord avoir un recul planté de 8 mètres, donc se mettre à distance de la limite, et ensuite avoir des constructions qui soient échelonnées, donc un système de gradins à 45 degrés, partant de rez-de-chaussée plus un étage jusqu'à rez-de-chaussée plus 3 niveaux plus des combles ou une attique. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir voilà, un immeuble de 8 étages à côté. Déjà, c'est limité à R plus 3 plus comble. Et en plus, il faudra respecter ce principe de gradin. Alors, après avoir présenté donc, les quartiers pavillonnaires, je passe maintenant aux quartiers de petits collectifs donc, qui correspondent à la zone UB que vous voyez sur la carte. Vous voyez en fait en violet le même liseré que tout à l'heure, toutes les parcelles qui étaient dans cette zone de petits collectifs et qui aujourd'hui sont passés en zone pavillonnaire. Donc on se rend compte que cette zone UB a été déjà pas mal réduite et il y a aussi une évolution des règles donc pour favoriser une urbanisation qui soit moins dense et qui soit plus aérée dans ces quartiers de petits collectifs. La première, c'est imposer une implantation des constructions qui soient en recul par rapport à la voirie. Puisqu'avant, il y avait une bande de constructibilité principale avec différentes modalités qui régissaient l'implantation par rapport à la voie. Et là, il faudra obligatoirement s'implanter en recul de 4 mètres. Donc, ce qui permet de donner de l'aération quand même aussi à la rue quand on se balade, de ne pas avoir les constructions juste au pied du trottoir. Deuxième point, c'est la diminution de l'emprise au sol. Là, on va passer à 60%. Avant, quand on était dans la bande de constructibilité principale, on pouvait atteindre 100% d'emprise au sol dans cette bande de constructibilité principale. Donc on réduit, on passe à 60. On réduit aussi la hauteur d'un étage qui ne sera plus que de 16 mètres, donc R plus 3 plus comble. Et de la même façon, on augmente les distances vis-à-vis des limites séparatives et aussi entre les constructions qui seraient implantées sur un même terrain. Donc je continue par les autres zones urbaines qu'on a regroupées ensemble, puisque c'est des zones, on va dire, voilà, dans lesquelles les règles sont ajustées pour garantir l'adaptation des projets, donc aux spécificités de ces quartiers, aux spécificités des formes urbaines. Alors vous pouvez noter, comparé à l'ancien PLU, qu'il y a une fusion en fait des deux zones de collectifs de l'ancien PLU, UD et UM, au sein de la même zone UD. Et un certain nombre de quartiers d'habitat collectifs sont aussi intégrés à la zone de projet que je vous présenterai tout à l'heure. Autre point à noter, c'est que dans le centre-ville, le centre ancien, donc notamment autour de la rue Pierre-Brossolette, la hauteur des constructions est diminuée d'un étage. Donc là, on passe à rez-de-chaussée plus deux étages plus comble. J'en arrive maintenant à la présentation de ce qu'on appelle la zone UP, donc que vous avez en bleu clair sur la carte, qui correspond à l'ensemble des quartiers sur lesquels il y a des projets, donc soit des projets d'aménagement ou des projets de rénovation pour les quartiers qui sont déjà constitués. Donc il s'agit à la fois d'intégrer dans cette zone UP des nouveaux quartiers à aménager, comme l'écoquartier L'Île de la Marne, Maille-Horizon ou encore le Clos d'Ambert, et aussi des quartiers de la ville nouvelle, donc qui sont à rénover, qui apparaissaient avant à la zone UM, comme par exemple le Mont-d'Est ou les espaces d'Abraxas. Le principe, c'est que ce que vous voyez en bleu, c'est là où vont se développer des projets publics, donc des projets qui sont maîtrisés par la collectivité et qui sont portés notamment par la ville, ce qui veut dire que sur ces secteurs-là, où c'est la ville qui est aux manettes, on peut se permettre d'avoir un règlement qui soit plus souple, et en même temps l'accompagner de ces fameuses OAP, pour dire ce qu'on veut mettre à l'intérieur de ces projets urbains. Donc on a à la fois un règlement qui est assez souple et en même temps des principes de projet que je vais vous détailler tout de suite, donc qui permettent d'orienter les futurs projets urbains, soit de développement, soit de rénovation de ces quartiers. J'en arrive donc maintenant à la présentation de ces fameuses orientations d'aménagement et de programmation sur les secteurs de projet. Alors en fait, il y a 11 secteurs de projet dans la ville sur lesquels il y a des grands principes qui sont définis. Ces grands principes, ils permettent de définir à la fois le type de construction qu'on souhaite réaliser. Est-ce que c'est plutôt du logement, du bureau, des équipements publics ? Ils permettent aussi de définir des principes d'aménagement. Quelles sont les voiries à créer ? Quels sont les espaces verts qu'on souhaite intégrer au nouveau quartier ? Et de donner aussi des indications sur la forme des constructions, donc la hauteur, les typologies, le type de construction qu'on souhaite réaliser. Donc là, vous voyez, les OAP sont localisées sur cette carte. Donc toutes sont dans la zone UP, donc la fameuse zone de projet du plan de zonage, sauf une OAP sur le centre-ville et la zone d'activité économique des Richardet que je vais vous présenter tout de suite. Donc ces OAP, en fait, elles ont fait l'objet d'un débat avec les Noiséens lors de l'atelier de concertation du 3 octobre 2016. En fait, on a choisi de vous faire travailler sur 5 orientations d'aménagement et de programmation. Les OAP sur lesquelles existent des marges de manœuvre, parce qu'il y en a certaines qui étaient déjà bien abouties, qui actent des projets en cours, et ça aurait servi à rien de vous faire réfléchir sur des projets qui étaient déjà ficelés. Donc on a préféré vous faire travailler sur des secteurs d'aménagement où la réflexion était plus ouverte, et donc les participants avaient le choix de travailler à la carte, soit sur le centre-ville, les Baheurs, la zone d'activité des Richardet, le Monde Est ou l'écoquartier de l'île de la Marne. Ce que je vais faire tout de suite, c'est vous présenter dans un premier temps l'esprit de chacune des OAP et dans un second temps ce qui s'est dit pendant la concertation, donc sur ces OAP qui ont été travaillées en atelier. Je précise là encore que la présentation va être très rapide, donc n'hésitez pas pendant le temps de questions-réponses, si vous souhaitez revenir sur un secteur en particulier pour avoir des précisions, ça sera tout à fait possible. Alors, concernant la zone d'activité économique des Richardet, l'objectif de cette orientation d'aménagement et de programmation, c'est de redynamiser la zone et de la moderniser en lien avec le cluster des cartes. Donc là, vous avez notamment l'autoroute A4, donc qui sépare la zone d'activité en deux. Comment on y arrive ? Déjà en essayant d'inciter à avoir des nouvelles activités qui s'implantent et aussi en confortant les activités existantes. Notamment au cœur de zone. Deuxième point qui est important, c'est la question des mobilités. Essayer de désenclaver cette zone pour qu'elle soit plus attractive et notamment résorber les voiries en impasse et les reconnecter au réseau viaire. Donc ça, c'est les principales orientations sur les Richardet.